Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Branle-bas de combat. Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent. Quand vivaient les corsaires, en 1966, François de Gaulle interprétait le générique du feuilleton télévisé. Corsaires et flibustiers, oui, mais sur les mers, il n'y a pas que des corsaires qui s'en allaient le cœur léger et qui s'enivraient d'aventure. Comment vivre et combattre en mer? C'est l'art de la bataille navale, en mer et contre tous.
Mais j'aimerais à présent armer un navire.
Canonniers à vos pièces!
Parez à virer la fourla!
Laissez les grâces!
À vos ordres, commandant!
Vous les canons! Ouvrez le feu!
Bonjour Alexandre Jublin.
Bonjour Xavier Mathieu.
Jusqu'à combien? Combien de personnes peut-on trouver sur un navire dans l'Atlantique au XVIIe siècle, disons?
Ah, c'est extrêmement variable parce que les navires changent beaucoup de taille, de forme, de philosophie même à cette époque-là. L'ordre de grandeur à avoir, c'est quelques centaines de personnes, avec l'idée qu'une personne n'est pas une personne dans l'absolu. Ça dépend si ce sont des marins, si ce sont des soldats, si ce sont des passagers. Tout ça, ça fait aussi des dynamiques extrêmement différentes à l'échelle du vaisseau.
C'est pour souligner combien sur ces navires, c'est tout un écosystème, c'est une petite cité qui se déplace, il y a beaucoup de monde.
Oui, tout à fait. L'analogie de la cité est intéressante parce que ça relève le côté clos. Et c'est, je pense que c'est fondamentalement l'originalité du navire, ce qui en fait un espace assez fascinant à observer. C'est que ce sont des gens qui sont enfermés ensemble, très littéralement, pendant des jours, des semaines, des mois, le cas échéant. Et du coup, il se passe à l'intérieur toute une sorte de phénomène politique. Hein. C'est fondamentalement un laboratoire politique, le navire. L'idée de gouverner, l'idée du gouvernail, l'idée du capitaine, du chef, etc. Il y a toujours cette analogie qui est là-dedans. Et par la clôture, par la promiscuité aussi, qui est toujours extrêmement forte, il se passe des dynamiques étranges, fascinantes, conflictuelles aussi, à l'échelle du navire, à l'échelle de la traversée, quelle qu'elle soit.
C'est ces dynamiques qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Alexandre Jublin, vous êtes agrégé docteur en histoire par le fer et par le feu. Combattre dans l'Atlantique 16e à 17e siècle, c'est ce que vous publiez au passé, chez Passé Composé. Vous produisez animé le podcast Le Collimateur, réalisé avec le soutien de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. C'est le ministère français des Armées. Ici, il y a ce moment particulier de la vie en mer, comme vous venez de le dire, avec un phénomène intéressant de se dire on est isolé pendant tant de temps sur un navire. Il faut rappeler aussi, vous avez donc par le feu et par le fer et par le feu étudié les combats, dire qu'à la différence d'un combat terrestre, quand on est sur le bateau, on ne peut pas s'enfuir.
On peut pas s'enfuir, en tout cas on peut pas s'enfuir individuellement, c'est-à-dire éventuellement un navire peut se décrocher, peut essayer de s'éloigner, encore que c'est relativement difficile, ça dépend de ce qu'on parle. Moi ce qui m'intéresse en premier lieu c'est l'abordage. À partir du moment où on est accroché, c'est difficile de se décrocher. Cela dit, il est toujours possible de s'éloigner, mais effectivement une fois que le combat en tant que tel, main à main, face à face, s'engage... Bon, la fuite individuelle est extrêmement difficile, voire impossible. Généralement, ça se passe pas exactement au bord des côtes, donc c'est difficile de partir à la nage et de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se réchapper, ce qui est un phénomène qui est pourtant très courant dans les batailles terrestres. On sait que c'est les moments de débandade sont souvent les moments de mortalité massive. Mais c'est ça qui est fascinant avec le combat naval et l'abordage en particulier, c'est l'idée que d'un coup, on est enfermé ensemble, face à face, et il va falloir que quelqu'un en ressorte plus ou moins victorieux, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de voie de dégagement, et il va falloir trouver une solution qui souvent passe, faut le dire, par la mortalité totale ou presque d'un des deux équipages, parce que surtout dans les niveaux de violence qu'on atteint au combat corps à corps, comme ça, c'est souvent difficile d'arrêter un combat.
Vous avez particulièrement étudié l'Atlantique, Alexandre Jublin. Pourquoi l'Atlantique? Est-ce que la manière de combattre dans l'Atlantique est différente de la manière de combattre en Méditerranée, par exemple?
Ouais, elle est tout à fait différente pour une raison d'architecture navale très essentielle, qui est que le... Alors, c'est pas... Mais en tout cas, à la période qui m'intéresse...
16e, 17e siècle.
16e, 17e siècle, il y a une grande différence entre les galères qu'on trouve majoritairement en Méditerranée, qui sont assez adaptées au régime des vents irréguliers, des courants et des fonds marins très irréguliers aussi qu'on trouve en Méditerranée, et de l'Atlantique où on a plutôt des navires, ce qu'on appelle de haut bord, des navires à voile qui peuvent faire des grandes traversées. Et De là découlent toutes sortes de différences, parce que les navires de l'Atlantique peuvent être plus chargés, mais aussi plus chargés en canons. De l'autre côté, les navires, les galères en Méditerranée, y compris des très grandes galères, elles sont plus chargées en hommes, moins de capacité de fret, et c'est un peu paradoxal, c'est un peu contre-intuitif, mais elles ont moins de canons, mais elles les ont de manière beaucoup plus efficace, parce que sur une galère, on peut monter un ou quelques canons dans l'axe du navire, et ensuite diriger la galère grâce aux rames de manière à peu près comme on veut. Donc on peut viser avec une assez grande précision à partir d'une quantité de pièces qui est assez limitée. À l'inverse, sur les navires à voile qu'on trouve essentiellement en Atlantique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut composer avec le vent, et le vent, c'est très difficile de diriger un navire comme on veut. Il faut composer avec la houle, qui est souvent plus longue, souvent plus forte qu'en Méditerranée. Et donc, moi, dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce régime de combat qui change, cette manière de se battre, où on essaye progressivement d'incorporer l'artillerie à l'art du combat précédent, qui passait essentiellement par l'abordage, par les pronages, par toutes sortes de choses comme ça. Eh ben, ce sont des dynamiques assez différentes, et donc, si j'avais voulu mettre, par ailleurs, la Méditerranée a déjà été relativement bien étudiée par, notamment, John Francis Gilmartin, mais donc, je me serais retrouvé avec deux corpus et deux dynamiques très, très différentes, avec des acteurs, en plus, très, très différents. Puis voilà, je me suis dit que l'Atlantique, c'était déjà assez large, en fait.
Oui, oui, il vaut bien travailler un sujet, le travailler de manière profonde, assidue, précise, plutôt que de s'éparpiller parfois pour comprendre ici ces dynamiques qui nous conduisent par le fer, le sabre en fait, et par le feu, le canon, avec cette question, de quel navire parlons-nous ?
La coque atlantique, avec sa forte caisse et une tonture accentuée, sa grand voile carrée et une petite voile latine à l'artimon, assurée d'une gouverne ferme, s'annonçait comme un navire de charge. Elle était maniable et capable de vaincre l'hiver et de surmonter la houle comme les courtes lames. En effet, le navire est, par définition, un instrument dont la forme et la conduite doivent correspondre aux missions qu'on exige de lui, compte tenu de trois exigences : capacité, vitesse, sécurité.
Nous venons d'entendre Michel Mollat du Jourdain, grand nom de l'histoire maritime qui s'exprimait en 1966 dans l'émission Heure de culture française, Alexandre Jubelin. Ici, là, nous avons l'évocation de la coque atlantique. Alors c'est la question qu'on peut se poser, de quel navire parlons-nous ? Vous étudiez cette étude, ce combat dans l'Atlantique du XVIe au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, quels sont les bateaux concernés ? C'est quel type de navire ?
Alors, il y aurait une réponse très facile qui est celle que vous ferez absolument tout le monde, c'est, on vous dirait, c'est des galions. Le problème, c'est que le galion, ça veut à peu près rien dire comme mot. C'est un mot qui est extrêmement fourre-tout, aussi bien pour les contemporains à l'époque qui, je reprends une expression de Nicolas Roger, appelle galion globalement tout ce qui flotte. Et encore aujourd'hui, c'est globalement vrai. Donc, si on essaye d'aller un peu au-delà, il faut voir qu'il y a une sorte de processus intéressant d'hybridation qui a lieu à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, qui va mener à un certain modèle très évolutif de navires qui sont globalement une hybridation entre les gros navires qui viennent plutôt d'Europe du Nord avec des coques très lourdes, très hautes, qui sont faites vraiment pour affronter la mer, pour affronter les conditions, et de l'autre côté une tradition d'architecture navale plus méditerranéenne avec des navires plus bas, plus effilés, plus proches de l'eau. Et ces deux traditions vont en quelque sorte se rencontrer, vont s'hybrider de plein de manières différentes. Il va y avoir plein de déclinaisons de ça. L'une d'entre elles, ça va être par exemple la caravelle, qui va donner que seront les navires, par exemple, de Christophe Colomb quand il va arriver en Amérique. Et ensuite, mais les caravelles, c'est relativement petit. Mais l'idée, c'est qu'il y a à la fois les capacités de charge, dans une certaine mesure, du navire d'Europe du Nord, et en même temps, le côté un peu marin, c'est-à-dire bas sur l'eau, ça va aussi avec la voilure, parce qu'on essaye d'adopter des voiles latines, c'est-à-dire des voiles qui sont plus carrées, qui ne prennent plus le vent que par l'arrière pour aller vraiment dans le sens du vent, qui permettent de remonter plus au vent. Donc on arrive à une sorte de compromis dans ces premières années, enfin à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, avec à la fois cet arrière qui peut être un peu massif, on peut garder encore le château arrière. Les navires du Moyen-Âge sont essentiellement caractérisés par des châteaux. C'est intéressant d'ailleurs le vocabulaire de la polyurcétique là-dedans, parce qu'on n'en sort jamais vraiment, mais il y a un château arrière, il y a un château avant, c'est très haut, etc. Progressivement, ça s'arase un peu à l'avant, le château avant disparaît, le château arrière reste, et les navires deviennent de plus en plus marins, de plus en plus effilés. Et puis surtout, ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que tout ça est fait pour une nécessité qui est celle d'incorporer les canons. Or, incorporer les canons, ça a l'air facile comme ça, mais ça l'est pas. Pourquoi ? dans les premières décennies, bon, où on voit apparaître des canons, la solution elle est simple. On va mettre des canons sur le pont. C'est pas tellement plus compliqué. Puis d'ailleurs, si on y réfléchit, c'est quand même la manière la plus simple de déplacer un canon qui pèse plusieurs tonnes plutôt que le mettre sur des roues. Vaut mieux le mettre sur un navire. Tout va bien. Il y a une certaine logique à ça. Et d'ailleurs, on a même des sièges médiévaux où, en fait, dès qu'il y a une rivière à côté, on essaye plutôt de mettre les canons sur des navires. Le problème, c'est que quand on commence à en vouloir plus, à vouloir une certaine puissance de feu, en fait, on se rend compte que mettre les canons sur le pont, ça pose un problème d'équilibre très réel, qui est que si vous voulez avoir un navire marin qui ait des bonnes performances nautiques, il faut baisser le centre de gravité. C'est pour ça qu'on a des quilles sur les navires jusqu'à aujourd'hui. Plus votre centre de gravité il est bas, plus votre navire il est marin, plus il peut, on appelle ça raide à l'agite, plus il peut prendre du vent sans trop se pencher, et donc plus vous pouvez aller vite, pour le dire extrêmement schématiquement. Donc, avoir des canons de plusieurs tonnes tout en haut du navire, c'est pas bon, de ce point de vue-là. Donc, il faut faire descendre les canons dans la coque. Et là, on commence à avoir un vrai défi d'architecture navale, parce que, d'accord, on les fait descendre dans la coque, mais maintenant, il faut bien qu'ils tirent, sans détruire la coque. Donc il faut faire des ouvertures. Et ça devient assez compliqué. On peut certes faire un trou dans la coque, mais un canon, si vous le chargez de poudre et qu'il est plus ou moins accroché, si vous n'avez pas bien réussi à faire une bonne structure de coque, il va vous arracher la moitié de la coque en tirant son coup. Donc en fait, c'est tout un processus d'architecture navale qui demande, c'est ce qu'on va appeler les sabords, hein, c'est-à-dire ces ouvertures dans la coque. Et en fait, on va apprendre progressivement à réussir à faire des navires qui soient solides tout en ayant ces ouvertures dans la coque et donc progressivement à faire descendre ces canons le plus possible proche de la ligne de flottaison, pas trop. Alors ça pose des problèmes quand c'est trop proche de la ligne de flottaison, mais en même temps c'est difficile de calculer parce qu'on ne sait pas vraiment calculer le point de flottaison à l'époque. Mais l'idée c'est vraiment de réussir à construire un navire qui soit à la fois avec des capacités de navigation décente et en même temps qui soit capable de porter un certain nombre de canons assez bas sur le navire sans trop déséquilibrer ou mettre en danger le vaisseau dans son ensemble.
Et les sabords, c'est ça? C'est les 1000 sabords du capitaine Haddock?
Exactement. Le sabord, c'est simplement l'ouverture dans la coque faite pour le canon, avec en plus cette subtilité qu'il faut essayer de faire des sabords étanches avec un volet, mais c'est pas facile à faire tout de suite. Il faut un volet qui puisse se rabattre, parce qu'un navire, spécialement un navire à voile, s'agite, donc ça penche sur le côté. Donc, il y a un côté qui sort plus de l'eau que l'autre. Donc si vous voulez faire des sabords relativement proches de la ligne de flottaison, il vaut mieux qu'ils soient bien étanches du côté sous le vent, c'est-à-dire du côté pas d'où le vent vient, vers où le vent va, pour que vous puissiez continuer à exploiter votre navire, que vos canons soient proches de l'eau, mais ne soient pas trop proches de l'eau, parce que, on en reparlera peut-être, mais si de l'eau commence à entrer par les sabords, votre navire il coule comme une pierre.
Oui, parce que l'idée d'avoir un trou dans la coque d'un navire, c'est sûr que ça pose problème. C'est pas bien. C'est pas comme ça que ça marche. Dans cette histoire que vous nous racontez, Alexandre Jublin, avec ces bateaux issus du Moyen-Âge, avec les châteaux, un devant, un derrière, c'est vraiment la représentation que nous avons dans les enluminures. Hein. C'est très arrondi. On voit que le château avant disparaît, celui de derrière reste, c'est la caravelle. Quelle est l'évolution? En fait, l'idée, c'est d'allonger le bateau, de l'effiler, vous avez dit. C'est quel type de bateau qui apparaît au fur et à mesure du temps, vous étudiez jusqu'au XVIIe siècle?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mouvements très, très contradictoires qui apparaissent. C'est-à-dire, donc, l'idée, c'est effectivement celle que vous avez dite. Bon, pour le faire simple, plus le bateau est effilé, plus il est marin, plus il est rapide, plus il est agile. Je suis vraiment très, très schématique, mais c'est l'idée globale. Effectivement, l'idée, c'est d'effiler ces navires. Mais avec l'apparition des canons à laquelle je faisais référence, il y a un autre mouvement qui est que, en fait, on veut beaucoup de canons. Parce qu'on a l'impression que ça va marcher très bien. Il y a une grande tentation du canon. Ah, c'est l'arme magique, etc. On peut faire disparaître l'ennemi en un coup bien ajusté. Donc, on en veut beaucoup. Donc, il va y avoir une tendance à la massification. C'est-à-dire, on va vouloir faire des navires très gros, avec énormément de canons. Jusqu'au début du XVIIe siècle, il y aura le Sovereign of the Seas en Angleterre, où qui frappe une centaine de mètres de long, plus de 100 canons portés, etc. Donc, énormément de monde. Pardon, mais énormément de monde aussi d'ailleurs pour servir ces pièces-là nécessairement, donc énormément de canons. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la période, ils vont s'apercevoir au bout d'un moment que ces navires-là, ils sont trop lourds. C'est-à-dire, s'ils réussissent à choper un petit navire, c'est sûr qu'il va passer un sale quart d'heure, mais il va être aussi possible de faire le pari inverse, c'est-à-dire de l'agilité, et du coup, dans les combats, c'est notamment ce qu'on va voir en mer du Nord, dans la Manche, c'est-à-dire des navires qui vont arriver, qui vont pouvoir être plus rapides, qui vont pouvoir harceler en quelque sorte ces très gros navires, ces gros mastodontes chargés de canons. C'est notamment, alors là on est vraiment au XVIIe siècle, ça va être l'apparition de la frégate hollandaise, ce qui va être ce pari-là, c'est-à-dire des navires plus petits, plus fins, vraiment tout à fait réduits, mais qui sont suffisamment agiles pour échapper aux grands navires. Donc on a vraiment, tout au long de la période, ces deux tentations qui sont toujours contradictoires. D'un côté, la massification, on essaye de faire des mastodontes qui ont une puissance de feu énorme, et de l'autre côté, on voit que, en fait, avec une réserve qui est qu'il ne faut pas que ce soit des navires qui soient destinés à des très grandes traversées. Voilà. Mais disons, dans le contexte notamment de l'opposition entre Espagnols et Hollandais, ou entre Anglais et Hollandais, c'est-à-dire tant qu'on reste globalement à proximité des côtes, dans la Manche, dans la mer du Nord, là, les petits navires, les frégates, ça peut avoir un intérêt quand ils sont bien maniés.
Et oui, voilà, vaut mieux être petit et rapide plutôt qu'un peu pesant et ne pas réussir à tirer ses coups de canon. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, c'est l'art de la bataille navale.
Ah, bienheureux les siècles, qui ne connaissaient point la furie épouvantable de ces instruments de l'artillerie, dont je tiens l'inventeur pour damné au fond des enfers, où il reçoit le prix de sa diabolique invention. C'est elle qui est cause qu'un bras infâme et lâche ôte la vie au plus valeureux chevalier, que, sans savoir ni d'où, ni comment, au milieu de l'ardeur du transport qui enflamme un cœur magnanime, arrive une balle égarée, tirée peut-être par telle qui s'est enfuie, épouvantée du feu de sa maudite machine. Et voilà qu'elle détruit les pensées et tranche la vie de tel autre qui méritait d'en jouir de longues années.
Quichotte de Cervantes, lu par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire, avec ici, au tout début du XVIIe siècle, avec Don Quichotte, l'évocation de l'artillerie. Parce que il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que le combat maritime est en écho à ce qui se passe sur la Terre. Donc il y a l'idée que sur Terre, les canons ont changé radicalement la manière de combattre. Évidemment, il faut les mettre sur mer, mais ça veut dire changer les habitudes, les traditions et surtout les adapter.
Oui, tout à fait. Bon, là, le Quichotte, on est tout à fait dans le topos très habituel de la fin de la chevalerie, etc. Comme dirait quelqu'un, on n'est pas toujours parmi de la mort de Bayard, tué d'un coup d'arquebuse. Donc, il y a ce thème classique de la déploration, de ces armes du lâche, etc., qui est en vérité un truc qu'on a littéralement depuis l'Antiquité. On disait déjà la même chose au sujet des archers à Sparte, donc c'est vrai, il n'y a aucune originalité à ça, mais en tout cas il y a ce thème très classique de la déploration, mais qui arrive aussi en mer, évidemment, pour la simple et bonne raison que en fait c'est les mêmes personnes, enfin c'est pas, on en reparlera probablement, mais ce sont pas des gens, les capitaines sont souvent des gens qui ont une formation terrestre, qui ont une dignité terrestre, qui se préparent à faire plus ou moins la guerre sur terre et qui se retrouvent sur mer pour une raison ou une autre, mais c'est dès lors il y a les mêmes idées, les mêmes représentations. Mais pour autant, il y a quand même l'idée que bon, ça marche quand même extrêmement bien. Alors oui, il faut adapter, mais en vérité, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'il n'y a pas les moyens, très simplement. Déjà, en fait, on galère pour trouver suffisamment de, oui, littéralement, mais pour trouver suffisamment de canons pour armer les navires. D'ailleurs, ce qui fait qu'on est obligé de les récupérer en permanence. Les navires n'ont pas des canons à l'époque qui leur sont assignés. En fait, on les récupère dans les arsenaux pour les mettre. Il y a une insuffisance générale du nombre de canons. Donc, dès lors, on est un peu obligé de faire avec ce qu'on a de briquet de broc. Et dès lors, on se retrouve avec des canons qui parfois peuvent être à terre, qu'on arrive en mer, etc. Et fondamentalement, l'idée qu'il faut avoir sur l'art, disons, de l'artillerie en mer à l'époque, c'est que c'est du bricolage, quoi. On a une pièce, l'artilleur se retrouve avec une pièce, il sait pas ce que c'est, il doit plus ou moins calculer la taille qu'elle fait, quel genre de boulet on met dedans et combien de poudre on peut mettre. Et ensuite, on improvise, quoi. Avec toujours cette idée que, bon, si ça se trouve, ça va marcher.
Oui, parce que déjà sur Terre, il n'est pas facile d'atteindre sa cible avec un canon, mais sur mer, ça bouge tout le temps. Il y a ça aussi à prendre en compte, ces canons-là. Ceux que l'on va trouver sur les navires ne sont pas, dans un premier temps, des canons qui sont adaptés pour cela. Il y a la réflexion de la création de canons beaucoup plus souples, maniables, pour servir en mer.
Alors, il y a des canons plus souples, maniables originellement, mais c'est les premiers canons. Ce sont des canons en fer forgé, dont qu'on charge en fait par le cul, au lieu de les charger par la gueule. C'est-à-dire, il y a des espèces de chambres amovibles, c'est vraiment des pots qu'on met à l'arrière du... En gros, on remplit une sorte de réceptacle avec de la poudre et un boulet, on le charge à l'arrière du tube, quoi, qui est vide. Et ça, c'est plus agile, plus rapide, mais le problème, c'est que ça, c'est limité par la solidité de votre pièce. C'est-à-dire, c'est, en gros, vous avez une sorte d'affût en bois, et donc vous chargez votre truc à l'arrière... votre recharge littéralement à l'arrière de l'affût en bois, mais vous ne pouvez pas trop charger parce que sinon ça va faire exploser le support de la pièce. Donc ça existe, mais ce qu'on cherche de plus en plus, c'est avoir des canons bien puissants qui peuvent tirer loin, qu'on peut charger, etc. Donc on va se mettre à les fondre d'une seule pièce. Et donc ces canons-là, on va pouvoir les charger nettement plus, mais ils vont être beaucoup plus difficiles à manier. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il y a effectivement une grande différence. La différence... Alors, de toute façon, les canons, c'est pas précis. D'une manière générale, j'imagine qu'on en reparlera, mais c'est une technologie qui est très compliquée parce que physiquement, ça n'est pas précis. Mais quand bien même, vous pouvez faire des adaptations incrémentales. C'est-à-dire, vous êtes passé un peu en dessous, vous êtes un peu trop court, vous surélevez la gueule de quelques degrés. Bon, a priori, ça partira à droite, à gauche, il y aura une marge d'imprécision qui est incompressible. Vous allez vous rapprocher de ce que vous cherchez à faire, et puis si ça marche toujours pas, vous continuez. En mer, c'est le pire truc de la Terre, parce que si vous avez besoin d'un truc quand vous êtes artilleur, c'est que votre pièce soit stable, pour pouvoir corriger. Or, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas stable, c'est un canon en mer, d'autant qu'en plus, votre canon, il n'est pas, généralement pas complètement accroché à la paroi. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il puisse reculer un peu pour atténuer les pressions sur la coque. Mais donc, ça veut dire qu'il recule. Donc, il y a le mouvement de la pièce qui va en plus être communiqué au boulet, en quelque sorte. Avec aussi le fait que votre navire, si, pour peu qu'il y ait un peu mer, il va beaucoup bouger. D'autant qu'il faut songer que la poudre à l'époque, c'est pas un revolver moderne, hein. C'est de la poudre noire. Donc vous mettez à feu, vous mettez votre poudre à feu par ce qu'on appelle la lumière. Et ensuite, c'est 5-6 secondes entre le moment où vous mettez la poudre en feu et où le boulet va sortir. Vous imaginez les mouvements que fait un navire en 5 ou 6 secondes. C'est-à-dire donc entre ce que le brave artilleur essaye de viser et la position de sa pièce quand le boulet va réellement sortir, il y a des décalages de plusieurs dizaines de degrés. Donc, bon, ça vous met, disons, des limites assez incompressibles à la précision de votre pièce, et ça met aussi des limites à ce qu'on peut attendre du canon dès lors.
Alexandre Jublin, mais à vous écouter, il ne faudrait pas de canon, il fallait abandonner la chose. Or, ils sont restés, donc ils ont une utilité. Alors, ils sont utiles à quel moment? Sans doute déjà pour impressionner. C'est sûr que quand on arrive face à un navire qui est armé de canons, on se dit, bon, celui-là, vaut mieux s'en méfier. Mais ils sont utiles à quel moment? Parce que au loin, on sent qu'ils vont pas toucher vraiment leur cible, sauf si le hasard est là.
Ouais, c'est intéressant. Toute la question de la thèse et du livre, c'est à quoi ça sert? Parce que effectivement, on voit que, en tout cas, ça n'est pas fiable. Fondamentalement, c'est une technologie qui n'est pas fiable, le canon, parce que encore à la fin de ma période, donc dans les années 1620 ou 1630, il y a des navires qui peuvent vraiment être à demi-portée de canon et s'arroser pendant des heures sans faire aucun dégât significatif. Donc, c'est bien que on peut pas attendre vraiment du canon que ça fonctionne de manière assurée. Pour autant, et c'est là qu'est la limite, c'est que ça marche. Parfois, ça marche. Et dès le début de la période, dès le 15e, dès le début du 16e siècle, bon, parfois, on voit des mentions d'un navire qui a été tiré d'un coup de canon, qui a été coulé, pardon, d'un coup de canon. Parce que si ça fait beaucoup de dégâts, et ça fait beaucoup de dégâts dans un truc qui flotte...
En bois,
qui peut vraiment couler extrêmement facilement. Donc... De ce point de vue-là, c'est pas c'est quelque chose de rationnel. Enfin, c'est moi la métaphore que j'ai employée, c'est le jeu de hasard. C'est comme jouer au loto, quoi. Ça peut, il n'y a pas de raison de pas jouer au loto parce qu'effectivement, on peut toucher gros. Il y a un peu plus de probabilité que de toucher un navire ennemi que de gagner au loto. Mais enfin, c'est quand même l'idée. Il n'y a pas de raison de pas le faire. On peut, mais faut pas en attendre quelque chose de. On peut pas raisonnablement en attendre que ça fournisse, disons, la décision du combat. À moins, et c'est là qu'on en arrive, à moins d'arriver à portée immédiate. C'est-à-dire quand on arrive vraiment à quelques dizaines de mètres, centaines, mais plutôt dizaines de mètres, bon, là, ça devient difficile de rater un navire qui se rapproche vraiment de vous. Mais, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant aussi, c'est du coup, vient la question de l'équipage là-dedans. C'est-à-dire, puisque tout le monde le sait que ça ne marche pas, puisque tout le monde le voit que ça ne marche pas de tirer de loin, pourquoi est-ce qu'il continue quand même à tirer de loin? Et ça, il y a plusieurs... il y a quelque chose de psychologique. Il y a quelque chose d'éminemment psychologique. Alors, il y a l'idée que ça peut éventuellement marcher, mais on le voit dans les instructions de capitaine, dans tous ces textes un peu normatifs qui expliquent au capitaine ce qu'il est censé faire, etc. Il y a l'idée, retenez le feu, forcez les hommes à retenir le feu, ne les faites pas tirer trop tôt, ne gâchez pas votre poudre, etc., etc. Parce que on le sait que c'est dans la dernière ligne droite que ça peut fonctionner, et pourtant, les hommes veulent quand même toujours tirer trop tôt, rapport très vraisemblablement à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire au fait que personne n'a envie d'arriver à l'abordage. C'est extrêmement effrayant l'idée d'arriver corps à corps avec un ennemi, avec des navires qui sont enserrés, etc., où on sait qu'il y en a un des deux qui ne va pas du tout ressortir vivant. Donc il y a l'idée que bah, si on peut tirer d'un peu trop loin et tenter sa chance, bon, c'est bon à prendre, parce que si ça se trouve, ça va marcher, et on va éviter cette épreuve extrêmement pénible pour tout le monde qu'est l'abordage. Avec en plus un facteur que je rajoute là-dessus, qui est la temporalité. C'est très long, un combat en mer, ça peut être très long. C'est-à-dire il y a une sorte d'attente pour que deux navires se rapprochent avec les vitesses qu'ils ont à l'époque. Ça peut être très très long, donc on le voit, on s'observe, il y a le temps dans un espace clos où il y a plusieurs centaines d'hommes, il y a le temps d'angoisser, il y a le temps d'avoir peur, il y a beaucoup de temps. Et donc c'est une espèce de temps qui se dilate et que probablement on essaye de dissiper en essayant de tirer un coup de canon pour se rassurer en quelque sorte, avec le très gros problème qui est que, même encore à la fin de la période, alors ça s'améliore, mais quand on tire le coup de canon, ensuite pour le recharger, c'est extrêmement compliqué. Donc le canon qu'on tire trop tôt, on risque de ne pas en avoir besoin quand il pourra vraiment servir.
Combien de temps pour recharger ?
C'est très compliqué à savoir, ça dépend du canon, ça dépend de l'équipage, ça dépend de l'entraînement. Mais globalement, même à la fin de la période, une demi-heure, c'est reconnu comme une performance assez remarquable.
Ah oui, une demi-heure, donc c'est pas rien. Tirer au loin, ça dissuade aussi. Hein. On voit bien que tirer au loin, c'est pas efficace, sauf le hasard. Ça dissuade, ça rassure, ça évite le combat. Et puis, en couverture de votre livre, Alexandre Jublin, Par le fer et par le feu, publié chez Passé Composé et le ministère des Armées, il y a une représentation de la bataille de Gibraltar en 1607. Et là, les navires sont côte à côte. Voici venu le temps du combat.
Elle a le vent en poupe. Regardez à quelle vitesse elle file. À peine un jour au large de Saint-Domingue. Les cales pleines de rhum et des meilleurs tabacs et les cœurs des marins heureux de rentrer chez eux. Oh. Le fanion rouge. Le sang se glace chez tous les capitaines de navires qui voient ce fanion, car ils savent qu'ils livreront un combat à mort. Mais le chevalier est un haddock. Et les Haddock, jamais, ne fuient. Tournons sur le pont, canonnier à vos pièges. On va lâcher les portées du roi sur ces traites potences, ces flibustiers de carnaval.
Parez à virer l'œuf pour l'œuf,
monsieur Nicolas.
À vos ordres, commandant. Parez à virer l'œuf pour l'œuf.
Vous vouliez du canon, ben vous en avez, c'est Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, bien sûr, le film de Spielberg en 2011, Alexandre Jublin. Au moment où les navires sont au plus proche, côte à côte, là, alors les canons sont efficaces. Cette fois-ci, ils ont vraiment toute leur utilité.
Oui, ils ont toute leur utilité. Alors d'abord, parce que je l'ai dit, c'est difficile de rater un navire qui est effectivement à quelques dizaines de mètres de vous. Par ailleurs, parce que c'est le moment où les boulets auront le plus d'énergie cinétique. C'est-à-dire, si vous tirez à plusieurs centaines de mètres, voire à un kilomètre, un boulet ça peut aller loin, par un coup de chance monstrueux, vous réussissez à toucher à peu près votre ennemi. Bon, le boulet il va pas faire d'énormes dégâts parce qu'il aura perdu déjà énormément de vitesse, donc il va percuter la coque, il va entrer, etc. Peut-être, mais parce que souvent on pense au boulet... un boulet, c'est fondamentalement pas quelque chose qui va tuer des gens. Ça peut éventuellement couler un navire. Ce qui tue des gens, c'est quand vous tapez le boulet dans la coque, c'est les échardes de bois qui éclatent. Là, vous avez des écharpes de bois extrêmement acérées qui peuvent tuer du monde autour. Mais le boulet, c'est pas un instrument antipersonnel efficace parce que, a priori, le boulet, vous tapez la personne qui est vraiment dans l'axe et c'est à peu près tout. Cette personne-là, elle va pas bien s'en sortir, mais quantitativement, ça fait assez peu de nombre. Donc quand vous êtes à très courte portée, effectivement, vous pouvez décharger vos canons d'un coup, vous pouvez donner une grosse salve, provoquer un effet de sidération. En plus, il y a d'autres choses là-dedans, il y a la fumée, j'imagine qu'on en reparlera. Mais... Et par ailleurs, vous pouvez aussi faire entrer toutes sortes d'autres armes à feu en jeu, parce qu'il n'y a pas que les canons, il n'y a pas que les grosses pièces, il y a aussi, en fait, il y a toute une variété de pièces, surtout à l'époque où c'est vraiment très très composite, parce que je l'ai dit, on récupère des trucs à droite à gauche, donc c'est pas... Les marines bien structurées, bien étatisées de la fin du XVIIe, du XVIIIe, ils auront des classes de canons, les canons de 12, de 24, de 36, etc., en fonction du poids du boulet. À l'époque, c'est pas du tout comme ça. À l'époque, c'est vraiment des trucs de bric et de broc. Il y a des canons qui sont gros, il y a des canons qui sont moyens, il y a des canons qui sont petits, il y a plein de canons qui sont plus ou moins antipersonnels, il y a des mousquets, il y a des armes un peu intermédiaires, qu'on charge de mitraille, qu'on charge... en gros de ferraille pour essayer de faire du dégât sur le pont. Et toutes ces armes, ces dernières catégories d'armes, elles ont plutôt moins de portée que les canons. Elles ont l'avantage que elles peuvent être rechargées plus facilement, même si on s'exagère toujours la cadence de feu des mousquets. Un mousquet, une arquebuse, etc., ça met une bonne minute, voire plus, à recharger. Mais enfin bon, c'est toujours mieux qu'un canon, hein. Et du coup, il y a des hommes qui peuvent les manier, qui peuvent en plus viser. Si vous n'êtes pas trop loin de l'ennemi, il y a la possibilité de vraiment viser avec ces armes, disons, personnelles, ces armes à main, en quelque sorte. Donc voilà, quand vous vous rapprochez, effectivement, là, c'est le moment de tout donner, sous réserve que, notamment, les canons, vous en ayez encore de disponibles, que vous n'ayez pas tout gaspillé en essayant de tirer trop tôt pour, effectivement, intimider l'adversaire. Hein, ça marche, il y a une dimension très psychologique là-dedans, effectivement. Un navire qui voit un amiral ennemi qui donne beaucoup de coups de canon, ça peut l'intimider. Mais tous les coups de canon que vous donnez, il y a peu de chances que vous les récupériez tous au moment où ils seront vraiment efficaces.
Voilà, ils terminent dans l'eau avec ce moment où tout le monde se met à tirer et c'est le bruit, c'est la fumée. Et puis tout cela correspond à l'intensité de la peur. Parce que, vous l'avez bien dit, Alexandre Jublin, le temps que les deux navires s'approchent, j'imagine la montée d'angoisse pour l'ensemble de l'équipage. Et ce moment d'angoisse, eh bien, correspond au coup de feu de tous les côtés, les coups de canon et la fumée. C'est intense, hein, et on le voit bien dans les représentations de ces batailles navales en peinture. Et on comprend pourquoi c'est un sujet qui a été beaucoup reproduit. C'est un moment sidérant.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir une seconde sur le moment d'angoisse que vous indiquiez, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est un moment qui est structuré. Enfin, que, en tout cas, on cherche à structurer sur les navires. C'est très présent dans les instructions des capitaines. C'est l'idée qu'il faut préparer l'équipage au combat. C'est-à-dire, il y a des rites, il y a des points de passage obligés, par lesquels il faut occuper le temps pour faire en sorte que on se retrouve pas d'un coup avec l'attente et puis d'un coup l'explosion de violence. Ça va arriver dans tous les cas, mais par exemple, c'est le discours du capitaine. Le capitaine doit faire un discours pour exalter ses hommes. Bon, mais ça prend du temps, ça occupe l'espace. Il y a des rites, il faut donner à boire et à manger aux marins. Ça prend du temps et ça prend de l'espace. Il y a des moments religieux. Alors, bon, ça dépend si on est dans des nations protestantes ou catholique, c'est pas exactement les mêmes rites, mais en tout cas, il faut essayer d'occuper le temps, il faut faire passer l'équipage par ces rites qui vont l'amener en situation de combat. Et comme ça, effectivement, quand le moment de déchaînement de violence arrive, il y a une certaine structure psychologique et puis aussi une structure de l'équipage, c'est-à-dire l'équipage a été disposé, a été ordonné de manière à pouvoir faire face à ce moment littéralement sidérant qu'est l'arrivée du feu, qu'est l'explosion de violence. C'est-à-dire, c'est un temps qui se dilate extrêmement pendant des minutes, des heures, et qui se précipite tout à coup quand on arrive au contact.
À l'abordage.
Dans chaque navire, il faut avoir désigné à part 30 soldats et 12 marins de la plus grande qualité, afin qu'ils sautent sur le navire ennemi. Et pas plus. D'abord, en raison de la confusion que cela entraîne souvent, mais aussi au cas où d'autres navires chargeraient le nôtre et souhaiteraient nous aborder de l'autre côté. On pourra alors faire face avec la défense et les gardes nécessaires. Et il ne faut pas tout aventurer d'un seul coup.
Des instructions. Nous sommes dans l'univers espagnol en 1624, c'est cité hein, dans votre livre Alexandre Jublin. Ah oui, il y a des instructions, il y a déjà des choses précisées. Toujours à réfléchir sous D'où viennent ces instructions? En fait, elles sont rédigées. Ou elles sont rédigées à terre par des gens qui connaissent bien la marine ou par des spécialistes qui ont vécu la chose?
C'est toujours une question. Effectivement, faut interroger la production de la source. Bon, disons quand c'est à terre, en général, ça dure pas très très longtemps parce que, c'est-à-dire les terriens ont toujours des idées très précises pour à quoi doit ressembler une bataille navale. Ça marche rarement. Souvent, c'est amusant d'ailleurs, hein, parce que souvent les grands généraux à terre, etc., ils ont des idées. Non, il faudra vous disposer comme ça, avec un escadron là, ici et là. Pas à l'échelle du navire, mais notamment à l'échelle de la flotte. Et systématiquement, les marins répondent, mais vous savez, quand il y a du vent, des vagues, etc., et des navires qui vont pas à la même vitesse, on peut pas exactement disposer ces navires comme une troupe à terre, comme vous, vous faites vos deux ailes et votre centre de cavalerie. Enfin, bon, il y a ce truc-là. Ces instructions qui accompagnent, qui sont certaines des sources primaires, souvent c'est l'amiral qui les émet au départ. Parce que il y a aussi un autre problème qui est le problème de la communication. C'est-à-dire, ok, vous partez, vous êtes une flotte, il faut se coordonner, et pour ça il faut avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une doctrine, c'est-à-dire, mais il faut avoir des... Vous pouvez pas communiquer, vous avez pas de radio, etc., vous pouvez éventuellement envoyer un navire, vous pouvez avoir des signaux de pavillon, bon, c'est compliqué, hein, et puis vous entrez pas dans la grande granularité des manœuvres de flotte avec vos pavillons, donc il faut avoir des instructions bien claires, donc généralement c'est l'amiral qui fait un grand texte, pour dire, voilà exactement tout ce qu'il faudra faire dans telle ou telle condition. Alors après, cet amiral, effectivement, si on regarde de près, c'est pas toujours forcément un marin, mais bon, souvent c'est quelqu'un qui a quand même une vague expérience des choses de la mer, et puis surtout c'est quelqu'un qui a un entourage, c'est quelqu'un qui est... Enfin, quand bien même ce serait pas lui qui aurait toutes ces idées-là précises, il y a des gens autour de lui qui, globalement, lui donnent des notions. Et du coup, ces textes-là, si vous voulez, ils sont pas aberrants par rapport à certains trucs qu'effectivement on voit quand c'est des terriens qui donnent des consignes aux marins.
Oui, parce que l'idée ici est de savoir qui participe à ces batailles. Étonnamment, en mer, il n'y a pas que des marins. Et c'est sans doute aussi cela qui correspond à l'histoire sociale par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, 16e, 17e siècle. Oui, mais parfois le premier, c'est un marin.
Et le premier, c'est un marin. Et le premier, c'est un marin.
Et le premier, c'est un marin.
Il a toujours le verre en main, la bouteille sur la table. Jamais il n'aura ma main pour être misérable.
Il a toujours le verre en main, la bouteille sur la table. Jamais il n'aura ma main pour être misérable.
Et le deuxième, c'est un barbu. Et le deuxième, c'est un barbu.
Et le deuxième, c'est un barbu.
Il est barbu par devant et barbu par derrière. Jamais il n'aura ma main barbu de cette manière.
Il est barbu par devant et barbu par derrière. Jamais il n'aura ma main barbu de cette manière.
Et le troisième, c'est un bossu. Et le troisième, c'est un bossu.
Et le troisième, c'est un bossu. Et le troisième, c'est un bossu.
Il est bossu par devant et bossu par derrière. Jamais il n'aura ma main bossu de cette manière.
Il est bossu par devant et bossu par derrière. Jamais il n'aura ma main bossu de cette manière.
Le quatrième, c'est un boiteux. Le quatrième, c'est un boiteux.
Le quatrième, c'est un boiteux. Le quatrième, c'est un boiteux.
Quand je le vois venir de loin avec sa petite jambe courte, jamais il n'aura ma main, sa démarche me dégoûte.
Quand je vois venir de loin avec sa petite jambe courte, jamais il n'aura ma main, sa démarche me dégoûte.
Et le cinquième, c'est un sonneur. Et le cinquième, c'est un sonneur.
Et le cinquième, c'est un sonneur. Et le cinquième,
celui qui aura ma main, mon cœur et ma boutique, nous irons par les chemins en jouant la musique.
Celui qui aura ma main, mon cœur et ma boutique, nous irons par les chemins en jouant la musique.
Voilà, on parle de canon, mais il y a un peu de bombarde. C'est Michael Yaounank qui chante le premier, c'est un marin.
Grand fan de cette chanson.
Bah c'est formidable, hein, parce que c'est là le paradoxe, Alexandre Jublin, le premier sur un navire, c'est pas toujours un marin, le capitaine. Est-il marin ?
Non. Enfin, ça dépend du navire, ça dépend de l'identité, etc. Mais en gros, globalement, sur les navires que j'étudie, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement des navires qui sont pour le compte du roi d'Espagne, d'Angleterre, etc. Non. Et c'est ça qui est frappant, en tout cas, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que le capitaine n'est donc pas particulièrement marin. Il est quelqu'un qui, dont la dignité et la naissance sont compatibles avec le fait de commander.
Un noble, un aristocrate.
Oui, mais en Angleterre, c'est un peu plus compliqué. Enfin, en Espagne, plutôt, oui. Et même sur les navires de la flotte des Indes. Bon, mais en gros, oui. Et du coup, c'est ça qui est fascinant, c'est que on a l'idée que le capitaine, seul maître après Dieu à bord. Oui, oui, tout à fait, dans certaines conditions. Mais si vous regardez ce qui se passe au quotidien, et d'ailleurs, par exemple, les instructions dont on parlait à l'instant, ça se voit très clairement. Le capitaine, au quotidien, sur un navire, il fait rien. Ou presque, quoi. Parce que la navigation, c'est pas son truc. C'est pas lui qui connaît le navire. C'est pas vraiment lui qui connaît les manœuvres. C'est pas sa compétence.
C'est qui? C'est le pilote?
Non, c'est ce qu'on appelle... Alors, il y a le pilote, mais le pilote, c'est un spécialiste, notamment des approches de port. C'est-à-dire un spécialiste de certaines zones. Non, c'est ce qu'on appelle le maître du navire. Qui est un office qu'on a beaucoup oublié, mais qui existe en Angleterre, en Espagne, en France, qui existe partout. C'est quelqu'un qui vraiment connaît le navire, qui est chargé notamment de... C'est intéressant, il est chargé du chargement, de l'avitaillement. C'est-à-dire, il est chargé de mettre les caisses dans le navire parce que c'est lui qui connaît les compétences nautiques. Il sait que répartir les poids dans un navire, c'est extrêmement important. Et c'est aussi lui qui est chargé, en fait, de l'équipage. C'est lui qui est chargé de... c'est lui qui décide quand on vire, essentiellement. Enfin, en tout cas, comment on vire. C'est lui qui décide des manœuvres, etc. Le capitaine, lui... Au quotidien, c'est pas son affaire. D'ailleurs, on le voit pas beaucoup. Il est chargé de deux, trois choses. Il faut veiller à la morale du navire. Faut pas que les gens jurent, surtout pas. Faut à la religion, si c'est possible, etc. Et puis, à préparer le navire au combat. C'est-à-dire, que les gens aient des idées vagues de ce qu'ils devront faire le jour où ça chauffera. Mais, éventuellement faire des exercices, s'il est très motivé, s'il y a le temps, s'il y a l'équipage pour, etc. Mais, son affaire, c'est pas la conduite quotidienne du navire. Son affaire, c'est la bonne forme morale et guerrière du navire. Pourquoi? Parce que le jour où le combat arrive, là, en revanche, le capitaine prend un rôle de premier plan, c'est-à-dire à son invisibilité, à sa discrétion, en tout cas, du quotidien, se substitue une omniprésence, parce que quand le combat arrive, le capitaine est l'âme, littéralement, et le chef de l'équipage.
Mais alors, dans cette histoire sociale, au moment du combat, on évoque le canon. Les artilleurs sont des marins ou ce sont des artilleurs qui pourraient très bien servir à terre?
Alors, c'est...
Je vous demande de généraliser, c'est vrai que c'est pas facile.
Non, c'est pas facile à savoir, surtout parce que... On a une source très belle qui a été étudiée notamment par Brice Cossard, c'est les artilleurs de la flotte des Indes, parce que, en fait, il y a une école d'artilleurs qui se crée en Espagne, à Séville. Et là, du coup, on voit à peu près qui c'est. C'est-à-dire, en général, ce sont des anciens marins de la flotte des Indes qui veulent acquérir une spécialisation, et avec cette spécialisation, le gain de salaire qui est associé. Mais ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'à cette spécialisation, à cette filière, ça existe aussi en Angleterre. Hein. Il y a une filière, et donc on peut devenir artilleur. Quand on regarde les sources, en fait, les gens, notamment les capitaines, se plaignent tout le temps des artilleurs. C'est-à-dire, tout le monde se plaint tout le temps qu'ils sont incapables, on se demande s'ils n'ont pas usurpé leur titre. On demande très régulièrement faut les tester quand même au port, et puis quand on sort du port, pour vous assurer que vous n'avez pas affaire à un charlatan. Donc, il y a cette notion que l'artillerie, c'est une arme nouvelle, c'est une arme compliquée, c'est une arme technique. C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans ces choses-là. Et d'ailleurs, on va créer des formations et il y a un poste pour ça. Et en même temps, il y a un décalage avec la compétence réelle, visiblement, des personnels qui est pas suffisante pour pouvoir se fier à la personne qui arrive sur le navire. Et donc, il y a la nécessité de vérifier par derrière, parce que manifestement, souvent, ils sont pas bons.
Et puis, hors du temps du combat, les artilleurs, en soi, ne servent pas à grand-chose. Mais si, ils doivent participer à la vie du navire.
Ouais, alors ça c'est amusant parce que ça renvoie effectivement, c'est de l'histoire sociale et ça renvoie aux sociétés d'Ancien Régime et au fait qu'il y a des statuts différents. Mais effectivement, souvent dans les sources, on voit, oui, parce que c'est souvent des anciens marins, donc on pourrait s'attendre qu'ils donnent un coup de main au quotidien. Et notamment en Espagne, on voit qu'ils ont des revendications très précises, qu'ils sont de ne rien faire de tout ça parce que c'est pas leur métier. Enfin, maintenant ils ont une compétence, ils ont le tampon, ils sont dans la catégorie supérieure, donc. Bon, non, ils n'ont pas donné un coup de main pour les manœuvres. Certes, ils savent faire, mais ça ne les intéresse pas. Et dès lors, ça provoque des grosses tensions entre les marins qui se disent il y aurait quand même moins de boulot si tout le monde s'y mettait un peu, et les artilleurs qui disent non, pas trop, non.
Ça, c'est dans le monde espagnol.
C'est notamment dans le monde espagnol, on trouve à peu près les mêmes genres de griefs dans le monde britannique.
Hein. Alors, que trouve-t-on dans la marine auvergnate ?
Qu'est-ce que c'est que ces deux types-là, là-bas, là, sur le pont, là, toi,
Allez,
Hercule ?
Les deux, là, ouais. Eh bien, ce sont les frères Larguignaf, mon colonel. L'un est gaillard d'avant et l'autre derrière. Oh, ils sont très pratiques, vous savez, puisque étant jumeaux, alors ils sont interchangeables.
Compliment, commandant, compliment. Remarquable sens de l'utilisation des compétences.
Oui.
Dites-moi, vous naviguez comment, quand il n'y a pas de vent ? Comment faites-vous ?
Et en cette conjoncture, mon colonel, si la mer est d'huile, eh bien, on marche au vinaigre. Et puis le plus souvent, au rhum.
Ah, au rhum ?
Mais oui, mon colonel, pour les hommes d'équipage, aux fins de les réconforter, parce que là, comme lui, il faut nager à la rame. Alors, forcément, les petits.
Les gars de la marine auvergnate, c'est Pierre Dac, le feuilleton radiodiffusé, bon baiser de partout. Alexandre Jublin, mais oui, le temps du combat, c'est l'intensité, c'est le moment absolu, représenté sans cesse. Mais. Avant le combat, il faut attendre. C'est très long aussi. Et c'est ça, cette vie du navire. C'est que le navire avance, c'est une chose, mais beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens-là, en attendant ?
Alors, au quotidien, les marins, ils sont relativement occupés quand même, parce qu'il y a toujours un truc à faire. C'est vrai, c'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a toujours un truc à faire sur un navire. Il faut ranger quelque chose, il faut s'occuper d'une voile, il faut nettoyer quelque chose. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres gens qui sont plus oisifs. Alors, le capitaine en premier lieu, les passagers éventuellement, qui vraisemblablement sont toujours en plein milieu du chemin, donc ils gênent toujours. Et puis, il y a enfin une dernière catégorie dont on n'a pas parlé, mais qui est amusante, qui sont les soldats. Alors c'est très vrai, il y a des philosophies différentes. En Angleterre, il y a moins, voire pas de soldats, c'est que des marins qui doivent être préparés au combat. Par contre, en Espagne, pour des raisons qui ont lieu à la culture militaire et aristocratique espagnole, leur idée c'est que pour combattre, il faut embarquer des soldats, il faut embarquer des tercios, enfin, en tout cas des escadrons sur le navire. Et là, on arrive dans une montagne de problèmes, parce que du coup, vous avez des soldats espagnols dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont leur caractère et leur susceptibilité, à qui on demande de cohabiter avec des marins. Alors eux, on n'essaye même pas de leur demander de faire des choses, hein, mais on essaye juste qu'ils se tiennent à peu près tranquilles, voire que quand on leur donne une indication, un conseil, ils le suivent. Et on voit que c'est extrêmement compliqué. Ils sont ombrageux, ils cherchent... souvent, en fait, ce qui est dit, c'est qu'ils tapent les marins. Ils sont ivres du matin au soir. En plus, ils ont le mal de mer. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué de gérer une troupe de soldats sur un navire espagnol, et c'est reconnu de manière assez uniforme comme un gros problème des navires espagnols, c'est qu'ils ont cette espèce de population qui est complètement soupaulée, qui fait rien et qui, quand ils sont disponibles, cherche plutôt à martyriser les marins, et que donc, bon, c'est pas bon pour la bonne vie et la bonne humeur du navire, quoi.
D'autant qu'en lisant Par le fer et par le feu, Alexandre Jublin, on apprend que nous sommes loin de l'image du temps passé sur le pont au soleil à regarder l'horizon, et c'est magnifique. C'est extrêmement encombré, ces navires. Il y en a partout, on a du mal à circuler. C'est plutôt inconfortable.
C'est extrêmement inconfortable. Le régime général, c'est celui de la promiscuité. À quoi il faut ajouter, évidemment, la puanteur d'un navire, parce que voilà, il y a trop de monde. Alors, quand c'est un navire qui fait une traversée, qu'il y a des passagers, je vous en parle pas, parce que les passagers, ils arrivent. Quand il y a des nobles, ils veulent des cabines, donc on met des cabines sur le pont parce qu'ils veulent pas être à l'entrepont parce que ça pue trop. Mais du coup, ça gêne le passage des marins. Ils ont leurs affaires partout. Parfois, il y a des animaux, il y a des poules, il y a des vaches, il y a des...
Ah oui, pour manger pendant le voyage, oui.
Ouais, pour manger pendant le voyage, pour aussi éventuellement juste faire traverser, hein. Mais du coup, en plus avec toutes les maladies que ça peut amener de la cohabitation proche avec des animaux, et du coup ça pose des vrais problèmes d'ailleurs quand arrive le combat, parce que quand on arrive le combat, en fait il y a des trucs partout, quoi. Et ce qui est recommandé assez souvent, c'est faut prendre une demi-heure, une heure, deux heures, le temps que ça prend, et on fout tout à l'eau, parce que on démonte les cloisons, les coffres, les affaires de tout le monde. Tout part à l'eau, parce que sinon on va pas y arriver, parce que s'il y a une chose qui permet d'assurer la survie, c'est une circulation relativement harmonieuse, relativement fluide, que les gens puissent aller là où on en a besoin, que le marin ait pas à slalomer entre des choses s'il doit manœuvrer une voile, ou que le soldat doive pas escalader des choses s'il doit aller prêter main forte à droite et à gauche. Et par ailleurs, il y a souvent des affaires partout autour des canons, donc il faut dégager les canons. Donc bon, le combat arrive, on fout tout à l'eau, et comme ça on peut espérer survivre.
C'est l'origine de l'expression branle-bas de combat, c'est ça? C'est quoi le branle-bas de combat?
Alors, le branle, c'est littéralement, c'est le hamac. Parce que à l'époque, d'ailleurs pendant très longtemps, les lits, enfin il n'y a pas de lit, quoi, c'est des hamacs. Et du coup, le branle, donc le branle-bas, on enlève le branle qui effectivement gêne le passage. Et souvent, parce que c'est plus ou moins du coton, on essaye de le mettre contre les parois, contre le franc-bord du navire, pour, enfin si jamais il y a... pas un boulet, mais s'il y a des projectiles qui tapent dans la coque, ça permet en quelque sorte d'amortir le choc et les échardes éventuelles.
Après, dans l'écriture d'une telle histoire, Alexandre Jublin, par le fer et par le feu, combattent dans l'Atlantique 16e, 17e siècle, la question des sources se pose. Il y a tout ce qu'on a pu évoquer, les instructions. Et puis, il y a le témoignage lui-même, parce que pour essayer de saisir ce moment particulier de la vie sur le navire et le moment encore plus particulier du combat, faut du témoignage. C'est-à-dire que l'histoire a longtemps été écrite par ceux venus de terre et qui regardaient ce qui se passait au loin. Faut complètement inverser le raisonnement et se placer dans le navire. Accepter la puanteur.
Faut accepter la puanteur. L'expression que j'ai utilisée, c'est essayer de faire une histoire au ras du pont, une vague référence à l'histoire au ras du sol. Oui, c'est l'idée. Faut essayer de trouver du témoignage. Après, le gros problème avec ça, c'est que qui écrit? Bon, c'est des capitaines, souvent. Peut-être éventuellement s'il y a un religieux qui est... Mais bon, globalement, c'est des capitaines. D'ailleurs, ils le font de manière un peu vicieuse. Souvent, ils le font à la troisième personne. Genre, le capitaine a été extrêmement héroïque. En fait, si on recoupe un peu le truc, ça peut être que lui qui l'a écrit. Donc, bon, mais ça pose fondamentalement des... Il y a des biais, quoi. Il y a des biais qui sont qu'il va forcément exalter l'héroïne de l'équipage et puis surtout le sien, dire que c'était un navire qui était extrêmement bien, etc. Et puis, surtout, si... A priori, le capitaine qui est défait, il va pas tellement écrire. Parce que, et c'est une des limites, enfin, c'est pour ça que cette période-là a été moins étudiée que les périodes ultérieures où on a des marines bien constituées, c'est qu'il n'y a pas vraiment, ça dépend, mais il n'y a pas vraiment d'obligation d'écrire. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'obligation administrative de produire des récits. En tout cas, pas centralisé, pas uniformisé, et c'est ça qui va présider à la constitution de toute cette masse de sources qui ensuite va pouvoir être classée, etc., et qui va pouvoir fournir les archives magnifiques de la marine. C'est la série B4 des archives nationales qui fonctionne très bien pour la fin du XVIIe et pour le XVIIIe, mais à l'époque, il n'y a pas ça. Les seules choses qu'on a un peu... C'est amusant, notamment en Angleterre, mais aussi en Espagne. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre à forcer les capitaines à écrire un peu? C'est parce que c'est pour des raisons de corruption. C'est-à-dire que en fait, on va les forcer à écrire un rapport à chaque fois qu'ils tirent des coups de canon, parce qu'on s'aperçoit que, en fait, quand ils rentrent au port, systématiquement, il n'y a plus de poudre, il n'y a plus de boulets, et on soupçonne très fortement qu'ils les revendent au marché noir. Donc, à partir de ce moment-là, on va les forcer à écrire un rapport chaque fois qu'ils tirent un coup de canon. Donc, forcément, ça va amener à la production de sources, et encore dans certaines conditions, quand ça s'y prête bien. Mais donc, oui, les récits... Il y en a, c'est des capitaines, ils sont orientés. Et par ailleurs, c'est là qu'on est un peu limité pour écrire l'histoire au ras du pont, c'est qu'ils ne sont pas particulièrement intéressés par la vie, la mort de leurs marins en particulier. C'est plutôt c'est une histoire écrite au cœur de l'action quand même, mais écrite vue un peu d'en haut quand même.
Pour terminer, Alexandre Jublin, cette période que vous étudiez, 16e, 17e siècle, on sent vraiment une période de transition qui aboutit au 18e siècle à une marine beaucoup plus normée. Mais cette transition est longue. L'acceptation des nouvelles techniques, je pense à l'artillerie, au canon, c'est long pour la marine.
C'est très long, c'est pour ça qu'on ne va pas remettre une pièce dans la machine, mais il y a eu ce très grand débat sur la révolution militaire autour de Geoffrey Parker, qui est le livre de Geoffrey Parker est assez subtil et plus subtil que ce qu'on en a fait. Mais en tout cas, il y a souvent cette idée que l'artillerie, c'est une arme miracle, et d'un coup, on passe de l'ère de l'abordage et du corps à corps à l'ère de ce qu'on va appeler la ligne de file après, ou pour le faire simplement, au fin 17e, 18e, qu'est-ce que c'est un combat? C'est deux navires en file qui se canonnent mutuellement jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui en a marre. Voilà, globalement c'est ça après. Et là on est dans cette période de transition, et donc on parle de révolution, mais c'est une révolution qui est extrêmement lente, qui prend un siècle et demi. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est toutes les ambiguïtés, toutes les difficultés et tous les retards face à cette arme dont on sait tout de suite qu'elle peut être décisive, et pourtant ça met des décennies et des siècles à fonctionner correctement.
Merci beaucoup à vous Alexandre Jublin, par le fer et par le feu, combat dans l'Atlantique, 16e, 17e siècle, cette histoire maritime qui nous permet de revoir tous ces films qu'on a pu voir et de les comprendre en exagération filmique, mais c'est toujours aussi passionnant. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
Comment décrivait-on le temps au Moyen Âge ? Grâce à l'exploitation des sources épigraphiques rassemblées dans les volumes publiés par le corpus des inscriptions de la France médiévale, on dispose aujourd'hui d'un matériau considérable pour mieux comprendre les systèmes médiévaux de représentation du temps. Je rappelle que les sources épigraphiques regroupent toutes les inscriptions réalisées par la main de l'homme sur des matières dures telles que la pierre, l'argile, le métal, le verre, le bois, etc. Ces sources ont permis de mettre en évidence le large spectre d'expressions des plus savantes aux plus communes qui étaient utilisées pour qualifier une année. Jusqu'au 7e siècle de notre ère, les inscriptions chrétiennes de la Gaule restèrent fidèles au procédé de datation datant des consuls romains. Néanmoins, dès le début du siècle précédent, un nouveau mode de calcul, appelé l'anno domini, fut mis au point grâce à Denis le Petit, un religieux chrétien érudit installé à Rome. À partir de ce moment-là, le système visant à dater les années depuis la naissance conventionnelle de Jésus-Christ a commencé à se diffuser. Dans une chrétienté qui s'affirmait, ce calcul avait l'intérêt de donner, comme point de départ de l'année, la référence à l'événement qui fondait une ère nouvelle, l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire le moment où Jésus avait revêtu volontairement un corps humain. En Gaule, cette nouvelle forme de datation fut utilisée pour la première fois dans des capitulaires de 742 et de 744. Mais il faut toujours se souvenir que le royaume de France n'était pas à l'époque un territoire unifié, soumis aux mêmes lois. C'est pourquoi l'événement marquant, le début d'une nouvelle année, pouvait être différent selon les régions. Cette diversité se retrouve quand on examine les multiples façons de noter le temps au Moyen Âge. Parmi toutes les inscriptions qui figurent dans nos sources épigraphiques, l'une des plus originales concerne l'usage du chronogramme. En utilisant les lettres d'une phrase ou d'un vers qui correspondent à des chiffres romains, les auteurs fabriquaient de véritables rébus. L'un des meilleurs exemples fut découvert sur la façade de l'hôtel de ville de Saint-Quentin. Pour dater son œuvre, l'artiste écrivit ceci. « D'un mouton et de 5 chevaux, toutes les têtes prendraient, et à Isselle, sans nuls travaux, la queue d'un veau joindrait, et au bout ajouterait tous les 4 pieds d'une chatte, rassemblés, vous apprendrez l'an de ma façon et sa date. » En suivant scrupuleusement ces indications, on apprend que l'édifice fut achevé en 1509. À partir du XVIe siècle, les progrès dans le domaine de l'horlogerie, la diffusion de la culture écrite et surtout le renforcement des pouvoirs royaux et religieux ont progressivement homogénéisé les manières d'enregistrer le temps. En France, c'est le calendrier julien, un calendrier solaire introduit par Jules César, que les autorités ont d'abord imposé. Mais en 1582, sous le règne de Henri III, il fut remplacé par le calendrier grégorien, conçu à la demande du pape Grégoire XIII par des mathématiciens et des astronomes jésuites des universités de Salamanque et de Coimbra. C'est ce calendrier que nous utilisons toujours aujourd'hui.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Sam Bakias, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscan Viudès, Jeanne Copet, Raphaël Laloum et Mayouen Guizhou, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.